Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Aujourd'hui, je reçois Cédric Bohain, qui est responsable du littoral Languedoc-Roussillon et qui va nous en dire un petit peu plus sur sa fonction. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Alors, vous avez fait un peu le grand écart. Vous êtes passé de responsabilité sur la Manche, la mer du Nord, jusqu'à Montpellier. Ça s'est fait il y a combien de temps, ça ?
Alors, j'ai travaillé en bureau d'études au début de ma carrière pendant 7 ans. Sur diverses façades, effectivement, et même un peu à l'étranger, en Algérie, dans les dom-toms, et ensuite en collectivité plutôt. Et je suis passé il y a 3 ans au Conservatoire du Littoral, et donc je suis délégué de rivage, donc je m'occupe de la délégation Languedoc-Roussillon pour le Conservatoire du Littoral.
Alors, le Conservatoire du Littoral, on en entend beaucoup parler, ça pose beaucoup de questions, et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est son objectif en fait, et puis finalement c'est déjà quand même un organisme qui fait partie du paysage.
Oui, le Conservatoire du Littoral a été créé en 1975, donc on va fêter ses 50 ans d'existence. C'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, il y a 180 agents dans cet établissement. Et il est organisé avec un siège qui est à Rochefort, mais surtout des délégations qui sont sur chaque façade maritime. Et donc pour la région Occitanie, donc qui comprend notamment les 4 départements littoraux de l'Aix-Languedoc-Roussillon, il y a 10 agents. Et aujourd'hui, le Conservatoire du Littoral est propriétaire sur ces départements de 15 000 hectares.
Vous allez de quel, pour donner une idée un peu de votre champ d'action, quand on dit le littoral, Languedoc-Roussillon, bon c'est un peu vague, on va donner des limites avec des villes par exemple.
Oui, on va de la commune du Gros-du-Roi, donc de la Camargue ardoise, jusqu'à la frontière espagnole de Cerbère. Donc on a 220 km de côte, 30 communes littorales et on rentre aussi à l'intérieur des terres puisqu'on intervient autour des étangs et lagunes.
Et alors donc on est sur une zone qui est très surveillée.
Très surveillée, oui, effectivement. Il se passe pas mal de choses avec des secteurs qui sont très différents entre la côte rocheuse, notamment des Alberts, ces lagunes et les grandes plages de l'Espiguette.
Bien. Alors, vous avez une petite phrase que vous aimez beaucoup qui est « Et finalement, le paysage, ça se visite sur le terrain ». Alors, on est à la radio, on n'aura pas d'image, et donc on espère que vous allez nous donner un peu à voir les paysages dont vous allez nous parler, parce que, sachant que Divergence est diffusée sur la région de Montpellier essentiellement, peut-être que chacun y retrouvera ses petits. Donc, en fait, le paysage que vous essayez aujourd'hui de défendre de la montée des eaux, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors, il est très, très diversifié au sein même de cette façade de l'Occitanie. Donc on a des paysages qui sont très variés. Donc je vous disais de la Camargue ardoise, ces grandes étendues de zones humides. Alors on a quand même une côte qui est très sableuse, mais qui est ponctuée de caps, d'éléments rocheux et de falaises, même jusqu'à la côte des Alberts, qui font que cette côte est vraiment très riche et extrêmement diversifiée, avec des zones humides vraiment d'importance majeure, même au niveau national.
Alors justement, j'aimerais bien peut-être qu'on en parle un petit peu de ces zones humides, parce qu'on vient de voir des images assez catastrophiques, des tempêtes dans le Finistère, sur la Manche, etc. Finalement, des zones où le conservatoire agit également, mais on est sur des territoires absolument différents. Comment vous caractériseriez la différence justement avec notre littoral Languedoc-Roussillon par rapport à ces zones ?
On a des phénomènes qui sont des marqueurs qui sont des éléments très, très différents, notamment sur la question des marées, qui peuvent être très importantes.
Vous voulez dire du coefficient des marées?
Des coefficients des marées, oui. Ou des marées, oui, si on est dans des différences de niveau qui sont assez faibles. Par contre, on a quand même des événements, on subit aussi des événements de tempête, et on en a eu encore récemment, là, qui ont eu des impacts importants sur ces secteurs. Deux zones humides, donc deux zones qui sont assez basses, parfois même en dessous du niveau de la mer. Et donc dès qu'on a des événements comme ceux de ces dernières semaines, on est effectivement impacté. Il y a des bouleversements très importants qui se produisent dans ces zones humides.
Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines?
Ben, par exemple, on a des submersions marines qui ont envahi des zones d'étang qui étaient déjà assez salées par rapport à l'accoutumée, puisqu'il y a un manque d'eau aussi, un manque de précipitation. Et donc la mer envahit ces étangs, ça a créé une sursalinité, donc des mortalités de poissons. Mais on a aussi des impacts sur des habitats très importants, et notamment les roselières, qui sont des habitats qui abritent de très nombreuses espèces qui sont protégées.
Mais quand vous parlez de la montée du sel, on a aussi des apports d'eau douce qui sont moindres du fait de la canalisation des fleuves, pour éviter les inondations.
Oui, il y a la canalisation des fleuves, il y a l'augmentation de la population, il y a la qualité de l'eau aussi. Donc tout ça crée une pression importante sur la ressource et donc parfois même des conflits d'usage. Et c'est vrai que les milieux naturels et ces zones humides qui sont basses sont un peu plus en aval en fait et souffrent donc de ce déficit d'eau. Donc ça se traduit par notamment cette augmentation des taux de sel, qui impacte les milieux naturels, mais aussi bien sûr les zones agricoles.
On va avoir, oui, l'occasion d'en reparler, sans doute au niveau de la vigne ou au niveau des poissons. Bon, mais est-ce que ces zones humides, qui font quand même un peu la caractéristique du paysage Languedoc-Roussillon, puisque on a les étangs avec les flamants roses, et puis ensuite on a les lits d'eau, et puis on a la mer, est-ce que vous pensez que ces zones humides, on va pouvoir quand même les conserver?
Oui, on va pouvoir les conserver. Alors,
parce que c'est une richesse quand même.
Ça va changer, c'est une richesse très importante et ça a des fonctions majeures, notamment dans le contexte de changement climatique. Ce qui est sûr, c'est que ça va évoluer. C'est-à-dire que ces zones humides, elles seront plus les mêmes, elles auront plus les mêmes critères. On parlait du sel, mais il y en a d'autres. Il y a des étangs qui se comblent aussi. Il y a tout un tas de phénomènes qui se passent. Et donc, ce qu'on envisage, c'est que ces zones humides vont être modifiées. Pour certaines, vont disparaître. D'autres vont pouvoir être déplacées. Mais vu la vitesse des effets du phénomène de changement climatique, ce qu'on craint, c'est qu'il y a une impossibilité de s'adapter pour ces habitats et pour un certain nombre d'espèces. Donc une disparition d'une très grande partie de ces milieux.
Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, le travail que vous avez fait dans le cadre de ce qu'on appelle Adapto 1, c'est-à-dire finalement le projet LIFE, le premier projet LIFE, est-ce que vous n'auriez plus le temps aujourd'hui de le refaire ou... Alors c'était sur le tronçon entre la Grande Meute et Mobio, essentiellement.
Oui, on a donc animé ce programme LIFE Adapto. L'objectif, c'était de développer des solutions justement d'adaptation au changement climatique sur les espaces naturels littoraux. Donc il y avait 10 sites pilotes en France, on en a eu un donc sur le Petit Travers près de Montpellier. Donc le fait majeur, c'était la suppression de la route littorale pour reconstituer l'écosystème dunaire, pour qu'il résiste mieux à l'érosion. Puis il y avait des enjeux d'accueil du public, mais il est toujours temps de mener ces projets. D'ailleurs, on candidate à un deuxième LIFE, Adapto Plus, pour essayer de dupliquer au maximum toutes les méthodes qu'on a pu tester dans le cadre du premier programme LIFE. Donc il est toujours temps de développer ça, et c'est ce qu'on compte faire pour les prochaines années sur de nombreux sites du conservatoire, mais aussi de l'ensemble des partenaires, que ce soit les collectivités ou autres établissements publics.
Et alors, quels sont les points positifs que vous avez relevés dans votre travail sur cette zone?
Alors, sur cette zone, on a pu vérifier, comme sur d'autres d'ailleurs, que ce qu'on présentait, c'est-à-dire qu'en fait, les milieux naturels sont les plus à même d'absorber, d'amortir les effets du changement climatique. Alors, déjà parce que quand c'est un milieu naturel et qu'il n'y a pas d'activité économique ou d'infrastructure derrière, il n'y a pas d'aléas, donc il y a moins d'enjeux quand la mer monte. Et ensuite, ces écosystèmes...
Donc vous voulez dire que vous pouvez plus facilement travailler?
on peut plus facilement absorber les effets des tempêtes, en tout cas. Il y a moins de risques et d'enjeux. Et ensuite, ces écosystèmes se reconstituent après ces événements. Et donc, on recrée une barrière un peu naturelle à ces événements. L'enjeu pour nous, c'est de travailler sur l'adaptation et donc de promouvoir pour cela ce qu'on appelle des gestions souples un peu du trait de côte. C'est-à-dire à partir du moment où on laisse de la mobilité au trait de côte, quand la mer monte, quand elle se retire, etc., si on n'essaie pas de figer ce trait de côte, il s'adapte, il évolue et il constitue dans le temps une barrière durable et un frein un peu aux effets de la montée des eaux et des tempêtes.
Voilà, alors donc, vous venez de nous dire que maintenant, on était dans une deuxième phase de ce programme. On appelle ça déjà adapté au plus, mais tout ça, c'est très technocratique, en fait. Est-ce que notre région se trouve toujours concernée par l'ensemble de ce programme ?
Oui, bien sûr, on a à la fois, on aura à la fois la suite sur le Lido de l'Or, c'est-à-dire l'idée de poursuivre le projet d'adaptation au changement climatique. Alors, il est à l'échelle du Stravert, là, l'idée, c'est de l'étendre sur l'ensemble du Lido de l'Or, donc sur les 420 hectares du Lido de l'Or.
C'est-à-dire, vous parlez de la plage, essentiellement, que vous allez fixer, ou bien quoi parlez-vous exactement ?
Pas forcément que la plage, c'est un projet global, c'est-à-dire de la plage jusqu'à l'étang et à la lagune, jusqu'à l'étang de l'Or. Donc avec les parties Petit Travers, Grand Travers et les berges du canal du Rhône-Assiette aussi, qui sont également propriété du conservatoire.
Vous pensez que la mer va aller jusque-là ?
Non, alors c'est un site qui est en plus il y a plusieurs, comme à l'échelle de la côte du Landau-Crocillon, il y a plusieurs secteurs. Il y a des secteurs notamment qui sont en érosion, donc près du côté de Moguio, du Lido de Carnon. Alors de l'autre côté, les secteurs sont en accrétion, c'est-à-dire que le sable, il y a de plus en plus de sable qui s'accumule sur une partie du site. Donc voilà, la mer risque de rentrer sur la partie côté Lido de Carnon, mais pas de l'autre côté. Donc c'est variable selon les secteurs.
Alors on sait que Carnon est en train de remettre en place des digues, enfin des épis, puisqu'ils ont lancé un appel d'offres pour trois épis, la mairie de Carnon. Est-ce que, on sait que cette construction a été souvent décriée parce qu'elle portait l'érosion, enfin elle modifiait un peu les courants et elle poussait l'érosion à côté. Est-ce que Carnon va pouvoir continuer quand même à monter ses digues, à construire ses digues dans le nouveau plan ?
Les travaux ont commencé pour ces trois épis, donc ils ont été autorisés.
Et alors pourquoi ils ont été autorisés alors que...
L'objectif, c'est de protéger le rond-point d'accès au Lido de Carnon, parce qu'il y avait une érosion assez importante sur ce secteur. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, qu'on appelle la flèche d'érosion, donc l'érosion qui se crée systématiquement après ces digues, va avoir lieu au droit du Petit Travers. Donc on aura sans doute une érosion plus importante qui va être décalée du coup vers le secteur du Petit Travers. Et donc il y a un suivi qui est prévu bien sûr, mais c'est évident qu'il y aura ce phénomène d'érosion va être déporté.
C'est-à-dire que en fait vous allez suivre les méfaits.
On va suivre en tout cas l'érosion qui avait vraiment au droit après les digues au droit du rond-point va être décalée sur le site naturel. Donc ça revient à la logique un peu de décaler l'érosion sur des secteurs où il n'y a pas d'infrastructure en arrière.
Et donc cette érosion va être décalée et on le sait et pourtant on va donner quand même l'autorisation de construire.
Oui, effectivement, ça a été autorisé dans l'objectif de préserver les infrastructures et l'accès au Lido de Carnon qui est habité.
Et comment on le justifie aujourd'hui ?
Ben on le justifie comme ça, justement, en disant il y a des secteurs en fait qui sont à préserver avec des solutions qu'on appelle en dur, avec des épis, parce qu'il y a des enjeux soit d'habitat, soit d'infrastructure derrière. Et ensuite, il y a des secteurs qui sont naturels qui peuvent absorber ces phénomènes. Ensuite, il faudra voir à terme, il y aura un rechargement de sable aussi qui va être effectué sur ce secteur, mais il faudra suivre un peu comment tout ça évolue, parce qu'on voit qu'avec les tempêtes, et notamment les dernières qu'il y a eu, comme à chaque fois ces saisons-là, on voit que le sable retourne vite à la mer.
Alors le sable repart à la mer, donc il n'y a plus d'autorisation pour réensabler.
Si, il y a des réensablements qui sont également prévus.
Ah, il y a encore des réensablements prévus. Alors, il y a quelque chose peut-être qu'on imagine un peu mal quand on est extérieur. On a l'impression qu'on a une loi à travers la loi climat et résilience qui justement interdit des digues, interdit le réensablement, projette une transformation du trait de côte et des interventions en ce sens. Et puis, on voit les anciennes actions qui ont été pourtant décriées, qui continuent à s'opérer.
Oui, effectivement, on est dans un mix de solutions.
C'est ce qu'on appelle la transition.
La transition, exactement, en pleine transition. Et donc, c'est sûr qu'en faisant le bilan de l'ensemble de ces aménagements qui ont été réalisés, beaucoup dans les années 60 avec la mission Racine pour le littoral d'Occitanie, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont inefficaces, voire contre-productifs. Et donc l'idée de la climat résiliente, c'est de se projeter, de prendre des hypothèses d'élévation du niveau de la mer, des événements climatiques extrêmes qui vont se dérouler, et de mettre en place des stratégies d'adaptation. Et donc les stratégies, c'est pas forcément ne rien faire, c'est à des endroits justement, il faut intervenir, et puis à d'autres, on sait que ça sera vain. De voir à quelle échéance tout ça va se dérouler et du coup de mettre en place des solutions qu'on appelle sans regret. Voilà
donc, alors on se donne un petit peu de temps.
On se donne un petit peu de temps, très souvent. Donc le temps, ça dépend, ça peut être 10, 20, 30 ans, 40 ans. Et souvent, il y a des incertitudes quand les mesures sont prises. Voilà.
Oui, parce qu'on a l'impression que les choses sont en train de s'accélérer. Alors, est-ce que vous qui êtes vraiment sur le terrain, vous avez cette même impression qui nous est donnée parfois par les médias, mais est-ce que les choses s'accélèrent, vont plus vite que les scénarios du GIEC, ou bien est-ce que réellement vous avez la possibilité de mettre les choses sur la table, de décider correctement?
Alors la difficulté, on s'appuie beaucoup sur les scientifiques, bien sûr, donc il y a les rapports du GIEC, mais il y a des études qui sont menées aussi régionalement, voire localement. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, les fourchettes sont assez larges, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans la théorie. Donc si on examine juste ce qui s'est passé ces 30-40 dernières années, on voit qu'il y a une élévation du niveau de la mer, on voit l'augmentation des événements climatiques un peu extrêmes. Donc voilà, on n'est plus dans la théorie. Donc la fourchette est large ensuite. La difficulté, c'est comment, quelles mesures on prend avec ce degré d'incertitude. Et donc c'est là qu'on rentre dans les débats, les discussions, on peut appeler ça du retour sur investissement ou du laisser-faire ou de la libre évolution selon les options. Mais à chaque fois, il faut que localement, dans le cadre un peu du national, on va dire, notamment la loi climat résilience en ce moment, les territoires décident et actent de leur stratégie et des moyens qui sont à mobiliser. Parce que bien sûr, tout ça a un coût très important. Donc ce qu'on prend nous, en tout cas au Conservatoire littoral, c'est de conserver les milieux naturels, un maximum de milieux naturels, parce que justement, il n'y a pas de risque, pas d'aléas, pas de choses qui sont exposées à ces phénomènes. Et parce qu'ils sont les plus résilients, comme je vous l'ai dit.
Alors, notre région littorale, pour l'instant, est plus marquée par la sécheresse. Enfin, c'est en tout cas l'impression qu'on a. On a l'impression que les événements cévenols ne descendent plus jusqu'ici. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire? Vous avez parlé de l'observation que vous êtes obligé de faire parce que finalement, toute la situation qui vous est donnée est nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous trouvez aussi à explorer deux possibilités, j'ai un peu envie de dire, soit un littoral méditerranéen qui devient un peu un Maghreb, d'une certaine manière, ou un littoral méditerranéen qui reste marqué par des gros événements d'érosion?
Oui, effectivement, ça fait partie des futurs qu'on envisage. Donc, il y a des secteurs, notamment sur les Pyrénées orientales et l'Aude, qui ont été vraiment très marqués par la sécheresse ces dernières années. Et on constate concrètement la disparition d'habitat et l'impossibilité d'irriguer certaines zones. Donc, on a des milieux naturels qui sont extrêmement touchés, mais on a aussi des milieux agricoles, et on est d'ailleurs de plus en plus sollicité pour accompagner aussi cette transition agricole ou agroécologique, en tout cas d'adaptation de l'agriculture, et en particulier de la vigne à ces conditions de sécheresse qui sont extrêmes. Et puis on a d'autres sujets, notamment les risques incendies, qui posent question, puisque vous savez, dans nos missions, le conservatoire achète des terrains, ce sont essentiellement les collectivités qui gèrent, mais nos missions, c'est de préserver tous les patrimoines, mais aussi d'accueillir le public. Et donc, on a des difficultés aujourd'hui à accueillir le public sur l'ensemble de nos sites, compte tenu de ces conditions climatiques qui sont un peu extrêmes.
J'ai vu aussi que vous aviez une difficulté à accueillir le public parce qu'il est de plus en plus nombreux, de plus en plus important.
Oui, on a aussi un sujet de fréquentation, de surfréquentation, on dit même d'hyperfréquentation de certains sites. Alors, suite au Covid, hein, comme tous les espaces naturels, ça ne concerne pas que les littoraux, mais particulièrement les littoraux, puisque la population est assez concentrée sur le littoral dans notre région. Donc nos sites sont extrêmement fréquentés, oui, bien sûr, ce qui peut causer des problèmes de conflit d'usage et parfois d'incompatibilité d'usage avec notre mission première, qui est la préservation des sites.
Alors, face à toutes ces interrogations, finalement, est-ce que la population se mobilise face à cette montée des eaux, ou bien est-ce qu'elle est encore dans le déni? On n'a pas eu, si vous voulez, des phénomènes qui, aujourd'hui, poussent les gens à imaginer qu'ils vont partir. Est-ce que là, enfin, quelle est la situation de notre littoral?
Je dirais qu'il y a encore du déni. Il existe encore. Il est en recul, très nettement en recul. Et quand même, ces événements, notamment on parlait de la sécheresse qui est très marquante, ont marqué les esprits. Donc à la fois de la population et du grand public, et à la fois des décideurs, quels qu'ils soient, que ce soit des élus ou autres. Donc il y a eu quand même quelques tempêtes avec des montées du niveau marin assez importantes, avec des zones et des lagunes qui ont été inondées, qui n'avaient pas été auparavant. Donc ces phénomènes augmentent et il y a une prise de conscience quand même progressive. Ensuite, quand on est sur le littoral, et voilà, je pense que la plupart de la population se dit qu'il y a encore le temps de voir un peu ce qui va se passer, mais pas dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont vraiment très fortement impactés et régulièrement. Donc il y a un gradient dans la prise de déni, la prise de conscience et les actions qui sont mises en œuvre, parce qu'il y a des territoires qui se mobilisent avec des gens qui se réunissent et qui travaillent à des solutions d'adaptation.
Alors, on peut lire dans un certain nombre de dossiers que finalement, notre région ne permet pas, comme certaines autres régions qui sont touchées par la montée des eaux, ne permet pas de se replier si nécessaire. C'est-à-dire que finalement, notre arrière-pays est très, très occupé.
Oui, l'arrière-pays, enfin en tout cas, le rétro-littoral immédiat des zones qui sont les plus directement exposées, notamment ces stations balnéaires littorales, des quelques villes aussi qui étaient historiques, on va dire, c'est très difficile parce qu'on a des zones de lagunes qui sont très importantes avec très peu de relief. Donc ça veut dire que le repli, la relocalisation devrait se faire sur des très longues distances, sur des secteurs complètement différents.
Donc ça, et ça les gens n'y sont pas prêts.
Difficulté. Et les gens n'y sont pas prêts, non. Les gens n'y sont pas prêts. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont réfléchi, qui anticipent ça, hein, peut-être que certains vendent leurs biens dans cette optique-là, selon cet avenir-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de repli massif. Voilà. Par contre, il y a des réflexions qui sont menées, notamment comme au niveau de l'agglo de Sète, sur ce qui devrait être relocalisé, ce qui est plus exposé, ce qui pourrait être relocalisé, ou etc. Donc il y a quand même des stratégies qui se mettent en place.
Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. On n'a pas eu le temps de parler réellement des problèmes qui touchent la vigne, mais c'est très certainement un des combats sur lesquels vous allez être obligés de jouer un rôle important, puisque souvent on a des propositions qui sont des propositions de maladie. Notamment, on voit des demandes de barrages contre la montée de la mer. Ce n'est pas forcément des choses que vous préconisez.
Non, nous, notre rôle, en fait, et notre mission, c'est de préserver des espaces naturels. Donc, ça ne veut pas dire qu'on prône des solutions du laisser-faire et de ne rien faire partout. Bien au contraire, on investit beaucoup sur les terrains qu'on achète et qui sont gérés par nos partenaires. Voilà, donc après, effectivement, il y a des solutions de maladaptation pour essayer de tenir un système qui paraît pas durable. Donc il faut toujours peser l'investissement et la durabilité de ce qu'on met en place. Sur la question de l'agriculture, on est, même si notre première action c'est sur l'espace des espaces naturels, on est de plus en plus sollicité pour accompagner le recul de l'agriculture et la relocalisation de l'agriculture, comme on a parlé au niveau de l'habitat. C'est-à-dire que les agriculteurs nous appellent en nous disant j'ai plus assez d'eau ou j'ai trop de sel dans mes vignes. Est-ce que vous seriez intéressé pour nous racheter de mes terrains pour que je puisse me relocaliser plus à l'intérieur des terres? Voilà. Donc on est de plus en
D'accord.
plus sollicité.
Et ça se fait alors. En ce moment, vous avez des demandes dans ce sens?
On a des demandes dans ce sens, oui, notamment dans l'Aude, où il y a un déficit hydrique très important, avec des viticulteurs qui n'ont pas de réseau d'irrigation dans leurs vignes et qui savent très bien que à terme, leur vigne va disparaître. Et donc nous, on achète ces terrains, ce qui permet de continuer à exploiter les vignes tant que c'est possible et de se relocaliser plus à l'intérieur des terres.
Bon, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci Cédric Bohain et à bientôt donc sur Nous n'avons qu'une terre.
Merci à vous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.